Au-delà des limites, c'est une conversation d'une heure, ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, vivant avec un handicap ou certaines limites. Au-delà des limites, c'est une invitation d'Yvan Deslauriers et de Francine Forget. Aujourd'hui, on reçoit André Vincent. André Vincent, qui est président du conseil d'administration de Vues et Voix. Je pourrais ajouter « entre autres », parce que c'est très réducteur de le présenter ainsi, tant sa carrière, son engagement, ses passions sont riches et diversifiées. André est déterminé, une détermination qui a eu le dessus sur une maladie oculaire qu'on lui a diagnostiquée à l'âge de 4 ans, la rétinite pigmentaire. Pour André, la retraite, ça n'existe pas. Ou en fait, ce mot-là n'est pas dans son vocabulaire, ou peut-être l'a-t-il redéfini autrement. C'est ce qu'on va découvrir avec lui aujourd'hui. Mais d'abord, faisons un retour dans le temps. Et on va commencer par le commencement, comme on dit. Bonjour, André.
Bonjour.
Vous allez bien aujourd'hui?
Ça va très bien.
Oui, c'est une belle journée pour se rencontrer, hein?
Oui, tout à fait.
Bien, s'enfermer dans un studio. En tout cas, en principe, pour le moment, on est à l'épreuve de l'eau.
Exactement.
Oui. Alors, comme je le mentionnais, évidemment, on va essayer de parcourir en une heure votre vie. Et on va commencer par l'enfance et le parcours scolaire primaire, secondaire. Et c'est Yvan qui va entamer le tout.
Et moi, mon gros défi, André, ça va être de te vouvoyer pendant une heure. Parce qu'on fait partie du même conseil d'administration, alors on se connaît depuis quand même quelques années. Alors, André, vous êtes né le 7 avril 1980, 1946, pardon.
Oh, j'aurais été content.
Ben oui,
oui
hein?
Je le sais. À Rougemont. Dans une partie de la Montérégie que vous qualifiez de pays des pommes. Est-ce que vous avez encore des souvenirs d'odeur de cet endroit-là?
Des souvenirs d'odeur et c'était ma petite enfance, donc l'époque où je voyais quand même un peu. J'ai même des souvenirs visuels, des souvenirs d'odeur et de bien beaux souvenirs.
Mais d'après ces souvenirs-là, vous... Vous avez vu partiellement jusque vers quel âge environ, de ce que vous vous souvenez?
Oh, j'ai vu partiellement, pour moi, jusqu'à un âge relativement avancé, mais ce n'était plus de vision fonctionnelle.
D'accord.
Mais je n'ai jamais eu de vision parfaite non plus.
Puis, à un moment donné, je pense que c'est votre mère qui s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche ou qui...
Oui, que quand j'échappais quelque chose, mon réflexe pour le retrouver, c'était pas de balayer avec mes yeux, mais de chercher avec mes mains. Mm-hmm. Alors, elle a vu qu'il y a quelque chose qui allait pas, puis son père, mon grand-père, m'a amené chez son ophtalmologiste qui... Ouais. A diagnostiqué, bon, on n'avait pas nommé la maladie à l'époque, là, c'était pas à la mode d'informer les gens sur le diagnostic, mais le pronostic, en tout cas, c'était que votre petit-fils, lui a-t-il dit, pourra jamais aller à l'école. Alors, c'est assez brutal, et quand mes parents ont vu ça, ben, c'est des gens qui avaient beaucoup de détermination, ils ont dit non, je vais aller à l'école. Alors, mm-hmm. Je suis allé à l'école et toute ma vie à l'école régulière, d'ailleurs.
Est-ce que c'est une décision en rétrospective qui vous a forgé, qui vous a donné la détermination qu'on vous connaît maintenant?
Ça l'a sûrement aidé beaucoup parce que quand on va à l'école en milieu régulier, puis on est la seule personne qui a une déficience, un handicap, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des handicaps de toutes sortes maintenant dans les classes. Mais à l'époque, j'étais seul. Et ça m'a amené à m'affirmer à ma façon. Et ma façon à moi, c'était en apprenant. J'ai été pendant longtemps un premier de classe. J'ai eu cette chance-là. Mais beaucoup, encore là, grâce à la détermination de ma mère qui m'a aidé tous les soirs à préparer mes devoirs, à me faire réciter mes leçons. Et ben voilà. Et graduellement, c'était devenu de plus en plus difficile. Je lisais avec des lunettes très épaisses, des loupes très épaisses. ma vision a diminué et je l'utilisais de façon optimale, ce qui me restait.
Mm-hmm. Là, le braille ne faisait pas partie de votre vie à cette époque-là?
Malheureusement pas. Je dis malheureusement pas parce que c'est une chose, avec le recul, que j'aurais apprécié connaître avant, parce que j'aurais pu lire beaucoup plus jeune, lire beaucoup plus de choses plus jeune. Parce que là, je lisais très lentement. Il n'était pas question de lecture rapide, évidemment. Alors, le braille, je ne l'ai appris qu'à l'âge de 23 ans, alors que j'étais à la fin de ma première année de baccalauréat en travail social. Et depuis quelques années, ma vision fonctionnelle n'était plus du tout là. Là, je passe. J'étudiais ou j'apprenais simplement en me servant de mes oreilles, en écoutant les cours, puis en rédigeant les travaux au dactylo, sans voir ce que j'écrivais, bien sûr, et mm-hmm. voilà. Donc, mais le braille, c'était un point tournant dans ma vie à l'âge de 23 ans.
Mm-hmm. De Rougemont, à un moment donné, vous partez vers Pointe-Claire, qui est quand même un milieu de vie assez différent. Quoiqu'à cette époque-là, Pointe-Claire, ça devait être encore assez rural?
C'était assez rural et il y avait ce qu'on appelait à l'époque le village. Même si c'est devenu beaucoup plus gros, tout ce qui est autour, pas loin du lac Saint-Louis, ils appellent ça encore le village d'ailleurs, pour mm-hmm. les vieux de la place. Et je suis déménagé là au milieu de ma première année et j'y ai vécu jusqu'au moment où je suis devenu pensionnaire pour fréquenter le collège Saint-Jean-Vianney où j'ai fait mes années de belles-lettres et rhétorique au cours classique.
Juste avant d'aller du côté de votre cours classique, c'était quoi votre relation avec les autres enfants, autant à Rougemont en première année que plus tard à Pointe-Claire?
J'ai eu la chance d'avoir des camarades de classe très ouverts et qui me prenaient comme tel que j'étais. Même si j'avais des lunettes très épaisses, donc ils voyaient qu'il y avait une différence, mais j'ai eu une belle collaboration. Je jouais même je participais aux activités sportives avec tout le monde. Pas mal moins performant, cependant. C'est les sports d'équipe. J'étais plus un figurant que quelqu'un qui était très actif, mais j'ai joué avec eux autres. Dans le temps, on jouait au drapeau, au ballon chasseur, même à la balle molle. Mm-hmm. Faut dire que quand la balle arrivait pour moi dans le champ, comme on disait, là, ben, elle tombait plutôt dans le champ, c'est pas moi qui l'attrapais.
Puis les échecs vont arriver plus tard dans votre parcours.
À l'âge de 12 ans à peu près, avec un camarade de classe, on s'est mis à jouer aux échecs entre nous, sans véritable technique, on n'a pas eu de leçons, alors... Mais je suis resté toute ma vie intéressé aux échecs, puis on va en parler probablement un peu plus tard, mais là, c'est devenu pour moi une passion à laquelle je consacre, maintenant que j'ai un peu plus de temps, je consacre une bonne partie de mes journées.
S'en va au collège. Vous êtes allé au collège Saint-Jean-Vianney de Rivière-des-Prairies. Vous avez fait belles lettres et rhétorique. Mais ce n'était pas votre premier choix pour entreprendre vos études supérieures?
Oui, le cours classique m'a toujours attiré. Mais j'ai commencé mes études d'abord au cours régulier ou scientifique à Pointe-Claire. Et quand il s'est agi de poursuivre, ben, j'ai voulu aller au cours classique. On avait essayé de m'envoyer un cours classique à Rigaud. Ça aurait été mon premier choix, mais là, à cause de ma déficience visuelle, je n'ai pas été accepté. Alors, le curé de Pointe-Claire connaissait le collège Saint-Jean-Vianney, qui était son rôle premier. C'était un séminaire qu'on appelait de vocation tardive, ça. Alors, le curé de Pointe-Claire pensait que je pouvais avoir la vocation.
Ça, c'est ceux qui changent d'idée dans leur parcours?
Ma mère souhaitait aussi, oui. C'est ceux qui peuvent changer d'idée dans leur parcours. Mmh. Alors, je suis allé là, mais avant tout pour pouvoir poursuivre mes études. J'ai terminé le cours classique ensuite au séminaire de philosophie avant d'entreprendre mes études en service social à l'Université de Montréal.
Est-ce que vous avez vécu une déception quand vous avez vu que vous ne pouviez pas aller justement dans votre collège de premier choix?
Oui, ça fait partie des déceptions que j'ai pu connaître. Ça fait partie des constats que j'ai eu à faire. Je dis, tiens, je suis un peu différent des autres parce que je vois moins bien. Il y a des choses que je pourrais pas faire. Mais je me suis pas arrêté à ça. Je me dis, je vois pas bien. Mais il y a tout plein d'autres choses que je vais pouvoir faire. Et c'est ce qui a été un peu le leitmotiv pour jusqu'à aujourd'hui, quoi.
En fait, vous avez fait le collège classique, comme on disait, mais c'était à l'aube de la création des cégeps.
Tout à fait. Au moment où j'étais au collège classique à Saint-Jean-Vianney, entre autres, on était en pleine période du rapport parent. D'ailleurs, les bons pères se méfiaient beaucoup du rapport parent. À juste titre, peut-être, dans leur cas, parce que c'est ce qui a mis fin au cours classique et un petit peu à la mainmise du clergé sur l'enseignement supérieur.
Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous avez un regret de ne pas avoir fait le cégep?
Non, c'est pas dans ma nature d'avoir des regrets, beaucoup, d'une part, puis d'autre part, au contraire, j'ai bien aimé, moi, la discipline, la rigueur qu'on retrouvait au cours classique, c'est les exigences qu'on avait, et je trouve même, je me permets de le dire, là, je ne m'en cache pas, qu'aujourd'hui, on manque peut-être d'exigences. On ne pousse peut-être pas suffisamment nos jeunes à se dépasser, et pour moi, c'est une chose que je trouve malheureuse.
Le père de ce rapport parent, M. Rocher, aujourd'hui dit que effectivement, on aurait peut-être à revivre un autre bouleversement en éducation. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça?
Avec raison. Je viens d'ailleurs de terminer la belle biographie que Pierre Duchesne a fait de lui là, en deux tomes. Et oui, il a tout à fait raison. Je pense, quand on voit ce qui se passe ces jours-ci, il y a toute une réflexion qui est à faire du côté de l'ensemble de notre système d'éducation, et notamment au niveau élémentaire et secondaire. Et je pense que ceux qui demandent rapidement des états généraux ont parfaitement raison de le demander. Il faut réfléchir à tout ça.
On part du collège pour s'en aller à l'université. Alors, vous avez choisi d'aller du côté du travail social. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers ça?
J'ai toujours été attiré, quand je pensais à l'avenir, à une profession, par quelque chose où j'allais pouvoir communiquer avec les autres, puis aider les autres. Pour moi, apporter quelque chose à mon prochain, aux gens qui m'entourent, c'était une chose importante. Alors, c'était en bonne partie la raison de mon choix. Et j'ai bien apprécié. Comme je vous l'expliquais, mes premières années ont été un peu plus difficiles parce que je ne connaissais pas le braille, il n'y avait pas de livre audio adapté à l'époque non plus, ni de manuel. Il n'y avait pas encore ce qui allait être la magnétothèque, l'ancêtre de Vues et Voix, et j'ai eu à bûcher pas mal. J'ai été aidé encore par des collègues et des consoeurs d'université qui m'ont apporté leur collaboration. Et voilà, ça m'a amené ensuite à entreprendre ma vie professionnelle dans ce domaine-là, et vie professionnelle qui a duré à peu près pendant 50 ans.
Pourquoi avoir tardé aussi longtemps à apprivoiser le braille?
C'est un concours de circonstances que j'explique simplement par le fait que mes parents connaissaient pas vraiment le braille. Par le fait aussi, peut-être, que pendant longtemps, quand on a une déficience visuelle, mais qu'on est simplement malvoyant, il y a peut-être une part de déni là, de la gravité, de la sévérité du handicap. On essaie le plus possible de vivre sans moyens qui, pour certains, apparaissent un peu comme stigmatisants, ce qui ne l'est pas du tout, à mon point de vue. Mais voilà, c'est simplement un concours de circonstances. Mais aussitôt que j'ai eu la chance de l'apprendre, je suis sauté dessus. J'ai eu, dans ma vie, pour vous donner une idée, quatre heures de leçons de braille. Puis après ces quatre heures-là, je lisais déjà mon premier roman en braille.
On peut dire que vous avez fait ça vite.
Oui.
Oui, très, très vite même. La lecture, c'est important pour vous. Hein? Si on va du côté de votre carrière, bon, il y a beaucoup de choses que vous avez fait. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire un éventail complet de tous les emplois que vous avez occupés. Mais il y a comme une constante qui revient, c'est, je dirais, la lecture et les technologies.
Oui, ben...
Le livre et les technologies.
La lecture d'abord, parce que j'aime lire depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé avec les bandes dessinées d'Hergé, puis j'ai continué à lire, même quand ma vision diminuait, je m'arrachais les yeux pour lire quelques bribes de romans. Et ça m'a suivi tout le temps, bien sûr, ensuite avec le braille. La technologie, ben, je fais un lien directement avec le livre, parce que la technologie a rendu le livre et l'ensemble de l'information écrite beaucoup plus accessible pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait un lien étroit entre les deux. Ça m'a aidé dans mes apprentissages quand j'ai décidé, après plusieurs années de travail social et d'activité de gestion en milieu de réadaptation, aller faire une maîtrise en bibliothéconomie. Ben, la technologie m'a aidé, mais je trouvais que ça manquait de livres et ça m'a amené avec des collègues et avec celle qui est devenue ma femme à mettre en place la première bibliothèque numérique francophone au Canada, je peux dire ça, qui s'appelait la bibliothèque Jeanne Sipiotte et qui visait à rendre le plus rapidement possible des livres numériques accessibles aux personnes non-voyantes.
Vous avez joué un rôle très important aussi à la grande bibliothèque.
Ben, ça a été un petit peu un aboutissement logique et souhaité. Hein. J'avais étudié en bibliothéconomie, alors je souhaitais un jour travailler là-dedans. Alors, au moment où, en 2004, il y a un poste de coordonnateur des services aux personnes handicapées, devenu les services adaptés à la grande bibliothèque, j'ai postulé et c'est moi qui ai été le coordonnateur, le chef des services adaptés pendant les 10 premières années d'existence de la Grande Bibliothèque.
C'était quoi votre travail à la Grande Bibliothèque?
Mon travail, ça consistait, j'étais gestionnaire, mais l'objectif, c'était de s'assurer que l'ensemble des services et des collections de la Grande Bibliothèque, qu'on appelle aujourd'hui BANQ, tout ça soit accessible à toutes les clientèles qui ont des besoins spéciaux. Alors, on pense bien sûr aux personnes non-voyantes immédiatement, là, puisqu'on est à vue et voix, mais il faut penser aussi à toutes les personnes qui ont des difficultés à lire pour des problèmes cognitifs, pour des troubles d'apprentissage, pour une vision résiduelle, mais qui est faible, donc qui ont besoin de gros caractères. On pense aussi aux personnes à mobilité réduite qui ont besoin de mobilier adapté, d'espace adapté dans une bibliothèque. Alors, c'était le but et ça reste encore aujourd'hui le rôle de ces services-là, que la bibliothèque soit accessible à tous.
J'imagine qu'il y avait aussi les employés à sensibiliser à cette réalité-là.
Oui, quoique à l'époque, au moment de la création du service, on avait intégré quelques personnes qui avaient déjà une expertise dans le domaine, à savoir les gens qui travaillaient à la Magnétothèque et à l'Institut Nazareth et Louis Braille dans le domaine de la diffusion du livre audio et du livre braille. Alors, ça a créé un noyau. Mais ensuite, ça demandait de la sensibilisation et je peux dire que j'ai formé plusieurs centaines de personnes pendant les 10 ans que j'ai été là-bas, au moins sûrement 300 ou 400, à la réalité des personnes handicapées, savoir comment les accueillir, quelle attitude avoir, quel service leur proposer, etc. Et surtout, les aborder comme des personnes à part entière, des personnes d'abord, mais qui viennent à la bibliothèque pour lire, pour recevoir des services d'information comme tous les autres.
Vous avez quitté quand ce poste-là?
En 2015, j'avais étiré un petit peu les choses, et quant à moi, j'y serais peut-être encore, mais il arrive un âge où on doit quitter. J'approchais 70 ans quand j'ai quitté la grande bibliothèque. Alors, mais c'était pas pour, vous l'avez dit au début, Francine, pour une retraite. C'était simplement pour, les circonstances faisaient qu'il fallait quitter, mais pour faire autre chose dans mon cas. Et j'ai continué à faire tout plein de choses, à m'impliquer au niveau de divers conseils d'administration, ici à Vuzévoie, dans le domaine des jeux d'échecs aussi. Je suis impliqué dans le milieu communautaire au niveau du regroupement des aveugles en biop du Montréal métropolitain, des comités d'accès à l'information. Je fais même partie d'une équipe qui donne des formations à l'accessibilité du web, parce qu'on sait que pour que les sites web soient accessibles, il faut que ça rencontre divers critères. Et c'est pas toujours évident, loin s'en faut, pour les concepteurs de sites web. Alors, je continue à m'impliquer à ce niveau-là. Et j'ai souhaité aussi m'impliquer au niveau plus citoyen, si on peut dire, à d'autres niveaux.
On aura l'occasion d'en reparler là, un peu plus tard. Alors oui, c'est sûr qu'on va parler de votre engagement, de votre militantisme et aussi de votre passage en politique. Mais avant, on va aller voir un petit peu du côté de votre vie de famille. C'est important pour vous, la famille, hein?
C'est important. La famille a toujours été importante. J'ai eu une belle famille. Mon enfance a été heureuse. J'ai été bien entouré par des parents. Par mes frères et sœurs, on faisait et on forme toujours pour ceux qui survivent. Mes parents sont décédés maintenant, bien sûr, mais une famille très unie. Et j'ai créé moi-même une famille avec une première conjointe avec laquelle on a eu deux filles. Plus tard, j'ai rencontré Michel, ma conjointe d'aujourd'hui, À nous quatre, on a le bonheur d'avoir quatre enfants et quatre petits-enfants et qui meublent bien notre existence.
Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont aussi une déficience visuelle ou...
J'ai... Mes filles ont une myopie assez forte, mais j'ai la plus jeune de mes filles qui a perdu un œil à l'adolescence, elle avait une pathologie qui favorisait le décollement de rétine, puis suite à un accident à la polyvalente, elle a reçu un trousseau de clés dans l'œil, puis ça a provoqué un décollement de rétine, puis l'opération n'a pas pu empêcher le décollement et la perte totale de vision.
Votre femme aussi, votre conjointe est non-voyante.
Oui, oui. Mais mes deux conjointes sont non-voyantes, en fait. La première est ma conjointe actuelle.
Ce qui ne les empêche pas de faire quand même des activités.
Absolument, absolument.
C'est ça, qui demande...
Et ce qui ne les a pas empêchés d'élever des enfants, justement. Comme tout couple va le faire, quoi.
Oui, je pense que vous avez certaines, peut-être, une petite anecdote à nous raconter lors de... quand vous éleviez vos deux filles au départ?
Au départ, pas vraiment d'anecdote, mais c'est sûr que pour bien des gens, c'était perçu comme une chose difficile, presque impossible. Hein? Je vous dirais même qu'on a eu une voisine mal commode qui avait appelé la protection de la jeunesse pour dire, ben, il y a deux enfants ici qui sont élevés par des parents aveugles. Alors...
Sous-entendu mal élevé, probablement.
Oui, oui.
Ou pas élevé du tout.
Avec une vie en danger, mais la DPJ a eu rapidement une réponse. Je leur ai expliqué qu'on était bien en contrôle de la situation, que j'étais travailleur social moi-même et qu'il n'y en avait pas de problème, que c'était une mauvaise perception de la réalité, hein, comme bien des gens en ont.
Oui, fait qu'en fait, après ça, ça s'est calmé. Les relations ont été meilleures avec le voisinage?
Pas avec cette voisine-là, mais je veux dire, elle était mal commode avec tout le monde.
Ah bon, donc c'était pas un cas d'exception, là. C'était pas du favoritisme, comme on dit.
Elle cherchait une raison, là.
Tout à fait, ouais, tout à ouais. fait.
Et puis, au niveau de la famille, maintenant, est-ce qu'il y a des activités vraiment que vous faites tout le monde ensemble? Ou j'imagine dans le temps des fêtes, vous avez certainement des réunions.
Trois ans, maintenant, ma mère, qui avait à l'époque 95 ans, continuait encore à vouloir nous recevoir. Et donc, les rencontres familiales, ça a toujours été très important pour mes parents. Et on a poursuivi ça le plus longtemps possible. Et on se rencontrait avec la famille élargie, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et tout le monde chantait, tout le monde s'amusait. On aimait bien faire de la musique, et quand Michel est apparu dans le portrait, ma conjointe, qui elle est pianiste, donc ça aidait à accompagner les chants.
Alors, je comprends que c'est ça, cette vie de famille, vous tenez beaucoup à l'entretenir avec Michel. La musique, c'est très présent aussi dans votre vie. Et Michel va se joindre à nous un peu plus tard, justement, pour qu'on parle de ces passions que vous partagez, elle et vous.
Alors, après une petite pause, on va revenir et là, on va parler de votre perception de l'avancement de la cause, surtout du livre, auprès de la population malvoyante et non-voyante.
Bien sûr.
Vous écoutez Au-delà des limites avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
On reprend avec André Vincent. André, en première partie d'émission, vous avez beaucoup parlé de l'importance dans votre vie de la lecture, de l'accès aux livres, du braille, de toutes ces choses-là. Et vous avez, dans vos choix de carrière et dans vos choix d'engagement, mis cette... de permettre cet accès-là comme étant un des engagements importants pour vous. Après votre parcours, comment voyez-vous cette situation où on a dans la population générale une forte proportion de gens qui sont analphabètes fonctionnels?
La moitié.
Par contre, du côté du livre audio, il y a eu une croissance exponentielle, particulièrement autour de la pandémie. Comment est-ce que vous voyez la situation du livre en général et particulièrement pour la population malvoyante et non-voyante?
Je pense que le livre, et là je parle pour tout le monde, c'est une source indispensable, c'est essentiel à l'épanouissement de tout citoyen, c'est ce qui va nous permettre une véritable ouverture sur le monde. On sait tout ce que le livre apporte, c'est ce qui ça nous permet d'apprendre, mais ça nous permet aussi beaucoup de rêver. Hein? Et c'est important de rêver si on veut réaliser des choses par la suite. Les personnes non-voyantes ont pendant longtemps été privées pas totalement, mais trop privé d'une grande partie de ce qui s'est publié, ce qui s'est diffusé jusqu'à l'apparition du braille et jusqu'au développement aussi du livre audio. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, ben, on peut le produire beaucoup plus rapidement, le rendre accessible beaucoup plus rapidement, ce livre-là. Cependant, pour qu'il soit vraiment accessible, il est important, il a été pendant longtemps essentiel même que ce livre-là, ben, je parle pas évidemment du braille en soi, c'est déjà une adaptation, mais le livre audio devait être adapté aussi pour qu'il ressemble le plus possible dans sa manipulation, dans le fait de naviguer de page à page, de chapitre à chapitre, de section en section rapidement, de pouvoir s'y retrouver. Alors, c'est pour ça qu'on a développé une norme d'adaptation du livre et ça demeure en 2023 vraiment pour moi essentiel. C'est pour ça que j'ai consacré une bonne partie de ma vie professionnelle à ça et que je continue à le faire au conseil d'administration puis maintenant à la présidence de Vues et Voix.
Mm-hmm. Est-ce que vous jugez qu'avec la croissance du livre audio, est-ce que le développement du livre audio adapté est toujours nécessaire pour permettre à la population malvoyante de pouvoir bien lire?
Quand il est adapté selon les normes, le livre audio va justement permettre cette substitution, si je peux dire, au livre conventionnel, même s'il ne le fera jamais. Je vais toujours le répéter, aussi bien que le braille, mais c'est pas tous les non-voyants, c'est une petite minorité qui connaît le braille. Parce que l'eau, vous en doutez bien, s'il ne remplace pas l'imprimé pour une personne qui voit, l'audio va pas remplacer non plus complètement le fait de pouvoir lire un livre page par page, comme je dis, aller rapidement en haut de la page, revenir, etc. Le livre adapté, lui, va permettre de le faire avec plus de souplesse à tout le moins, va permettre de s'approcher de ça, d'où son importance et son caractère, je dirais même, essentiel. Et c'est pas parce qu'on voit apparaître de nouvelles technologies qu'on voit apparaître les livres commerciaux que le livre adapté n'a plus sa place. Il a toujours sa place, à condition sans doute de pouvoir s'adapter à l'évolution des technologies. On produit présentement, sans que je devienne trop technique, des livres adaptés selon une certaine norme qui s'appelle la norme DESY, mais on pourrait penser éventuellement à utiliser davantage le EPUB, qui est un outil qui est facilement adaptable aussi.
Oui, puis j'imagine qu'il y a peut-être des créneaux de livres qu'on devrait peut-être explorer davantage.
Oui, il faudrait regarder ça et surtout essayer de livrer rapidement les parutions les plus récentes. Je pense, par exemple, à une expérience que je vis depuis quelques années. Moi, j'utilise notamment les ressources d'une bibliothèque en France, à Paris, et je prends un exemple. Il y a quelques semaines, quand les prix Goncourt et Femina et Médicis sont devenus disponibles, ils étaient disponibles en livres braille et audio adaptés en même temps que c'était disponible pour l'ensemble de la population. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus exploiter chez nous au Québec.
Iriez-vous jusqu'à dire que c'est le grand défi présentement de l'accessibilité aux livres adaptés?
Oui, c'est un défi. Il y a de plus en plus de choses accessibles pour les personnes non-voyantes. Il y en a de plus en plus qui le sont, bien sûr, sur Internet, grâce à l'utilisation des logiciels de revue d'écran, de la synthèse vocale, les afficheurs braille. Mais l'accessibilité aux livres que la personne va lire dans toute occasion chez elle, quelles que soient ses autres activités, le jour, le soir, en déplacement, dans le métro, dans l'autobus, le fait que ces livres-là soient accessibles, ça demeure une priorité.
Parlez-nous maintenant de votre engagement, de votre militantisme pour diverses causes. Vous avez touché un petit peu à ce sujet-là en première demi-heure. Que ce soit pour l'accessibilité pour tous à tous les services d'une bibliothèque ou encore le manque de financement gouvernemental pour des ressources pour les non-voyants.
Ah, ben moi, j'ai été engagé, je pense, j'ai même impliqué dès ma jeunesse. À l'école, déjà, je m'impliquais dans les conseils scolaires. Très jeune, même, je m'intéressais à la vie politique. Je me rappelle que en 1964, j'avais 18 ans et j'étais déjà membre d'un des premiers partis souverainistes au Québec.
Ah oui?
C'était l'autre parti qui a vécu moins longtemps, qui s'appelait le Parti républicain du Québec, qui avait été fondé par un des membres du RIN aussi, Marcel Chaput. Et donc, je m'étais engagé. J'ai milité longtemps et je milite encore au niveau des regroupements comme le regroupement des aveugles et ambliopes du Québec et du Montréal métropolitain. Donc, pour moi, ça a toujours été important. Autant je m'impliquais aussi pour dans des organismes quand mes filles étaient plus jeunes, dans des conseils d'administration pour... elle faisait du patinage artistique. Alors, un jour, j'ai été président du club de patinage artistique à Longueuil. Donc, pour moi, m'impliquer, comme je vous dis, apporter aux autres, c'était important. Faire avancer des causes, c'était important. Qu'elle ait une dimension plus citoyenne ou plus communautaire. Mais tout ça, c'était une priorité.
Selon vous, ça serait quoi la cause la plus importante présentement à faire progresser?
Oh!
Juste une.
Grande question. Moi, je pense que c'est à la base de tout. Alors, je pense que, on en a parlé plus tôt, notre système d'éducation, revoir notre système d'éducation pour que tout le monde en profite et en profite de façon égale. C'est une cause essentielle. Mm-hmm. Et si on règle des choses à ce niveau-là, ben on va constater que pour le futur, ben on va avoir réglé bien d'autres choses. Évidemment, je ne parle pas, mais c'est tout aussi important pour moi. Je m'engage de ce côté-là aussi de tout l'avenir de notre planète, de toute la situation liée au réchauffement climatique. Mais je pense que beaucoup de choses commencent par l'éducation.
Tantôt, on a parlé de l'éducation et d'un bouleversement à l'époque. Est-ce qu'il était nécessaire d'en avoir un autre aujourd'hui? Vous avez répondu oui. Mais est-ce que c'est aussi profond que la démarche devrait être aussi profonde que ce qu'on a fait à l'époque, c'est-à-dire un genre d'états généraux ou quelque chose comme ça, selon vous?
Certainement. Le problème qu'on vit depuis quelques décennies, c'est qu'on essaie de régler les choses en pompier un peu, hein, un peu au niveau cosmétique, alors que le problème est beaucoup plus profond que ça. Le problème est systémique. Et je veux pas rentrer dans trop de détails, le temps va nous manquer, mais oui, c'est tout aussi important de faire un grand remue-ménage là-dedans, autant que ça l'était en 1963.
Et est-ce que c'est en passant par la politique que vous considérez que ces changements-là peuvent arriver? Parce que vous avez mis votre photo sur un poteau, vous.
La politique, c'est un moyen. Oui, j'ai mis ma photo sur un poteau. J'ai été candidat pour Québec solidaire en circonscription de Vachon en 2018. La politique, c'est un outil incontournable. C'est pas le seul et c'est pas le premier, je dirais. Je pense que c'est plus l'engagement citoyen, les groupes sociaux qui ont leur premier mot à dire et qui vont apporter tout le reste. Parce que souvent, la politique et ceux qui y sont engagés, les politiciens, ben malheureusement, à cause de notre système, qui est malgré tout un des meilleurs en termes de démocratie, qui existe, mais à cause de ce système où les gens pensent avant tout à leur prochaine réélection, ça fait en sorte que nos politiciens souvent ont des visions à court terme et ont peur de penser à ce qui va arriver après eux, dans 5 ans, dans 10 ans. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut penser. Faut penser. Et c'était ça, la révolution tranquille du rapport Parent. Mm-hmm. C'était de penser beaucoup plus loin.
Est-ce que c'est dans cet esprit-là que vous aviez choisi de vous impliquer dans Québec solidaire?
Oui, c'est un parti qui d'abord rejoignait mes valeurs. C'est un parti qui était un peu plus à gauche, qui, selon moi, est beaucoup plus près des citoyens, qui ne craint pas d'avancer des choses souvent moins plus difficiles à vendre, qui vont peut-être faire mal à certains, notamment aux mieux nantis. Mais oui, c'est pour ça que j'avais choisi Québec solidaire.
Comment vous avez trouvé votre expérience d'une campagne électorale?
Une très belle expérience. C'est un défi pour une personne non-voyante d'avoir à faire du porte-à-porte. C'était une belle expérience. J'ai été bien accueilli. Il y avait toute l'organisation. Moi, j'étais dans une circonscription qui n'avait pas d'association en place. J'ai été obligé de bâtir mon équipe en l'espace de quelques semaines, de A à Z. C'était très positif. On a même doublé le score de l'élection précédente pour le parti. Autre défi intéressant, c'était la préparation des débats et même la tenue des débats. Hein, le simple fait d'avoir à se limiter pour répondre à un minutage, à 2 minutes, quand tu vois pas le petit bidule là, que les autres voient, qui leur annonce leur décompte, on est obligé d'essayer d'être créatif.
Oui, mais vos capacités intellectuelles sont extrêmement importantes dans une situation comme ça. Comment vous avez trouvé ça, le débat?
J'ai bien aimé ça. J'en ai fait même une couple, un entre les candidats, puis j'ai fait un débat, le sujet n'étonnera pas, mais un débat sur la culture avec d'autres personnes qui n'étaient pas nécessairement les candidats de la circonscription, mais j'ai bien aimé l'expérience. Il faut être alerte, il faut être prêt à répondre aux questions de l'animateur. Il faut être prêt aussi à débattre, à réagir rapidement à ce que l'autre vient de dire. Alors, ça demande effectivement d'être très attentif, surtout quand nos seules notes pour se référer, c'est les petites notes qu'on a prises en braille et tout puis se déplacer d'une page à l'autre, c'est pas comme mes adversaires ou les autres candidats qui avaient une vue d'ensemble sur leurs notes. Moi, j'étais obligé de me déplacer rapidement sur mes feuilles braille. Alors, beau défi.
En deux mots, si une de vos filles vous approchait pour dire « Ah, ça me tenterait d'être candidate. »
Ah, je serais très heureux. Et si mes petits-enfants veulent s'engager en politique, je serais le premier à les applaudir et à les encourager. Je ne sens pas nécessairement de volonté de ce côté-là pour le moment, mais tant mieux si ça se produit.
Bravo. Alors, André et Francine, pour cette portion, on va aussi parler avec Michel Brûlé, qui est votre conjointe, André, vous en avez déjà parlé à quelques reprises, et qui est aussi assistante à la recherche à une émission que je connais bien, qui s'appelle « Images et mots à voix haute », qui est animée par Marie Lalande, ma conjointe. Bonjour, Michel Brûlé.
Bonjour. bonjour. J'ai pas beaucoup de voix, mais on va dire que ça va faire.
On vous entend bien quand même. Oui, bonjour, ça... Michel.
Oui. On va commencer d'ailleurs par parler du jeu d'échecs et après ça, on va parler d'une de vos passions communes à André et à vous, c'est les voyages. Mais passons un petit peu de temps sur les échecs. Donc, André, vous avez commencé à jouer sans trop connaître les règlements, vous avez dit tantôt, avec un de vos amis.
Oui, un ami d'école primaire, en fait, les débuts de secondaire. Sans connaître les règlements, on connaissait les règles, mais on connaissait pas toutes les bonnes pratiques,
c'est-à-dire les
subtilités des ouvertures, etc., qu'il fallait roquer le plus rapidement possible, qu'il fallait développer nos pièces légères, les cavaliers et les fous, mm-hmm. pour ceux qui connaissent les échecs,
oui.
avant de sortir la dame, qu'il faut pas mettre en situation de péril trop hâtivement dans une partie, etc., toutes les combinaisons, les questions de stratégie et de tactique. Donc, j'avais pas ça. C'est beaucoup plus tard que j'en suis venu à ça. J'ai fait, en fait, mon premier tournoi en 1973 avec d'autres personnes non-voyantes à l'Institut Louis Braille. Et par la suite, j'ai continué à jouer occasionnellement pendant l'année. Depuis 13 ans à peu près, je joue régulièrement, là, on peut dire plusieurs parties par semaine, puis j'ai participé à divers tournois ici au Québec contre des voyants. J'aime beaucoup jouer dans les tournois organisés par la Fédération québécoise des échecs, mais je suis allé jouer en France aussi quelques fois et j'ai eu la chance de participer aux Olympiades pour non-voyants, les Olympiades par équipe, qui ont eu lieu à Rhodes, en Grèce, en 2022. J'ai bien aimé cette expérience-là où nous étions 5 à représenter le Canada.
Vous faites un beau pont avec les voyages, mais juste avant qu'on aborde cela, quand on s'est parlé précédemment, vous m'avez dit que les échecs, c'est un jeu que vous considériez comme inclusif.
Tout à fait. Des personnes non-voyantes me l'avaient fait remarquer justement lors d'un de mes premiers tournois contre des voyants. C'est des personnes voyantes m'avaient fait remarquer ça plutôt, en me disant, ben oui, aux échecs, là, il n'y a pas de différence. Tout le monde peut y jouer, qu'on voit ou qu'on voit pas, ou qu'on n'entende pas. Tout le monde aussi, quel que soit... sa langue, quelle que soit sa couleur, quel que soit son statut social. Et c'est une réalité, c'est un jeu inclusif à tous les niveaux.
Quand vous jouez aux échecs, ça vous prend quand même un potentiel de mémorisation assez important?
Oui, bon, on a des jeux adaptés où les cases noires sont en relief par rapport aux blanches, nos pièces... on peut les toucher, oui. Et on a des petits points qui nous permettent de différencier les blancs des noirs, etc. Donc, c'est pas un jeu qui se passe complètement dans la tête, mais oui, l'idée d'avoir une image mentale est importante, puisqu'elle va nous permettre là, d'être plus compétitifs quand on joue contre des voyants qui, eux, ont l'image déjà du jeu sous les yeux, là.
Tournons-nous maintenant vers une autre de vos passions, ce sont les voyages. Et Michel, vous avez demeuré à l'étranger pendant plusieurs années.
Oui, moi j'ai habité en Allemagne durant 9 ans. Puis ben c'est sûr que j'ai fait quelques petites incursions pendant ce temps-là, mais pas beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de sous, mais je regrette aujourd'hui parce que je me dis j'aurais donc dû, etc. Il va falloir aller ne fût-ce que, je sais pas moi, au Danemark ou enfin à des endroits limitrophes, si on veut, mais on s'y reprit un petit peu avec André plus tard quand je suis revenue. On a fait divers endroits.
Michel, est-ce que c'est la musique qui vous a retenu en Europe?
Ben là, c'est comme si l'entrevue d'André, je ne vais pas commencer trop à parler de mes affaires. mais c'est ça, oui, ben, c'est sûr que c'est la musique qui m'y a amené. C'est des études que quelqu'un connaissait, quelqu'un que j'avais accompagné ici au camp musical Camac, un des membres de l'orchestre de la radio de Francfort, qui connaissait un prof à Detmold et qui a dit, ben regarde, je vais te recommander, etc. Mais j'ai dit, t'es fou. J'ai dit, moi, j'ai pas l'argent pour ça. Il dit, la musique, il dit, c'est gratuit. Bon. Alors, comprenez qu'en 2012, j'étais une des premières à aller manifester pour la gratuité parce que je me suis dit, oh, qui suis-je pour dire qu'il faut absolument augmenter les tarifs et tout ça pour les étudiants. J'ai tout eu gratuit là-bas. C'est extraordinaire. C'est plus comme ça maintenant, ça a changé.
Donc, quand André et vous avez convenu que vous vouliez passer un morceau de votre vie ensemble, la passion des voyages a dû en faire partie.
Ben oui, c'est quelque chose. Si ça pouvait arriver, tant mieux. Hein. ça prend les sous, ça prend, ou en tout cas un peu de folie, je dirais.
André, quand on est chez soi, on connaît les distances, on connaît comment sont placées les différentes choses, mais en voyage, vous avez plus de repères. Comment vous débrouillez-vous quand vous partez tous les deux en voyage?
Ah, on découvre qu'il y a beaucoup de repères en voyage et surtout beaucoup d'obstacles de toutes sortes.
Oui, j'imagine.
Mais en utilisant notre canne blanche, je dirais qu'on n'a pas de problème avec ça. De la même manière qu'on se déplaçait sur un trottoir à Longueuil où on habite ou à Montréal ou à Paris... C'est la même chose. On a les mêmes techniques de canne blanche. Des fois, les trottoirs à Paris ou ailleurs en France ont plus d'obstacles, mais il s'agit de d'y aller avec prudence.
Mais, est-ce que je peux intervenir?
Oui. Bien sûr.
Hein? Ça, c'est-tu le fun, ça, comme émission? Oui,
bon. Oui, tout à fait.
Vous êtes là pour ça, Michel.
Oui. Moi, j'ai une chose. Je vais vous dire une chose. Ce que je tiens à le dire. Pourquoi vous voyagez? Si c'est pas pour le dépaysement, je me demande pourquoi.
Mm-hmm.
Ben, c'est pareil pour nous autres. Pour le dépaysement, c'est la première raison, le dépaysement. Après ça, tu peux ajouter des tournois d'échecs, tu peux ajouter avoir des amis.
De la musique.
Ouais, mais ça.
Des concerts.
Mais la musique, il y en a ici aussi. C'est le dépaysement. C'est ça qui est le fun. Tu pars, tu t'en vas quelque part, puis tu reviens par une route différente. C'est bien plus le fun que de revenir par la même maudite route. Nous autres, en tout cas, nous deux, là, puis moi en particulier, on est comme ça. Quand tu grimpes jusqu'au château d'If à partir du bateau, là, tu sors, là, puis tu grimpes, les marches, il y en a, je ne sais pas combien, il y en a cet escalier-là, il est monumental, les marches en pierre, tout ça. Tu es content d'être arrivé en haut, tu es tout seul, il n'y a personne qui t'a achalé, tu es rendu en haut, puis là, le gars arrive, il dit « Ah, deux! » Il dit « Oh, deux! » Il était tout content de voir du monde qu'il ne voyait pas parce que ah, j'ai du braille. Mais il y a plein de trucs. Moi, je ne m'arrêterai pas là, de parler de voyage.
Et oui, j'entends ça. Puis je retiens ça surtout. Est-ce que votre prochaine destination, monsieur, madame, est déjà déterminée?
Oui. On va profiter du tournoi d'échecs qui a lieu à Poitiers au mois de mai. Et on va aller passer, on va prendre un vol sur Bordeaux et revenir après le tournoi. On va passer une semaine dans la région bordelaise.
Mm-hmm.
Je suis en train de planifier toutes sortes de trucs. Là.
Et André, c'est Michel ou c'est vous qui faites la planification?
Ah, c'est Michel qui passe des heures et des heures là-dedans.
Ça, hein?
On irait moins loin si c'était moi, probablement, puis c'est sûr. Il y aurait beaucoup plus d'imprévus, quoi.
Mais vous n'auriez pas le choix avec vos échecs aussi de partir au loin, non?
Ah, ben là si je décide... C'est un choix quand même, mais effectivement, là, ça nous a amenés à divers endroits, là, les tournois d'échecs. Ouais.
Mais il y a deux choses quand on voyage, que je dirais, qui sont très, très importantes pour tout le monde, mais pour nous aussi. C'est, d'une part, la planification. Avant le départ, longtemps avant le départ. Moi, je réserve, bien sûr, les hôtels, les billets de train, s'il y a des visites guidées, s'il y a des petites croisières, mini-croisières qu'on veut faire, je réserve tout ça d'avance. Mais, aussi important, la souplesse.
Mm-hmm.
Faut pas se programmer mur à mur. Il n'y a rien de plus moche que ça. Il faut se donner du temps libre, du temps pour accueillir l'imprévu, du temps pour la spontanéité. Ça, c'est le fun.
Je note et je vous remercie pour ces précieux conseils.
Malheureusement, Michel, la souplesse en radio, c'est pas toujours évident. Alors, nous sommes rendus déjà à la conclusion. C'est quasi incroyable, Yvan, mais on aurait continué. André, écoutez, on est... devant votre militantisme, votre engagement, on est inspiré. C'est le seul mot que je peux trouver. Vous avez contribué à faire avancer des causes tellement importantes pour les personnes qui avaient un handicap visuel, qui ont un handicap visuel, dont l'accessibilité à la lecture, mais aussi, je vous dirais, pour l'ensemble de la société. Vous avez milité par conviction. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup pour une plus grande inclusion. Alors, merci pour tout ça. Merci de nous avoir ouvert votre livre aujourd'hui. Merci, Michel Brûlé, d'avoir participé avec nous, vos passions et votre ouverture, vous aussi à la culture, qui nous a permis d'en apprendre davantage sur André, votre conjoint. Au-delà des limites, c'est une réalisation de Mathieu Tessier. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Au-delà des limites, une production de Canal M, la radio de l'inclusion.